Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Narthree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « L'affaire Dreyfus, vérité et légende » est un essai historique d'Alain Paget consacré à l'un des grands scandales politiques et judiciaires de la France contemporaine, publié dans la collection « Vérités et légendes ». L'ouvrage cherche à clarifier un dossier souvent résumé de façon trop rapide dans les manuels « L'accusation d'espionnage » portée contre le capitaine Alfred Dreyfus. La mécanique de l'erreur judiciaire, puis l'enchaînement des prises de position. Des manipulations et des combats intellectuels qui ont divisé la société française entre 1894 et 1906. Paget adopte une méthode pédagogique fondée sur des questions précises, ce qui permet d'examiner les faits, les acteurs, les documents et les représentations sans perdre de vue les enjeux de fond. Le livre ne se limite pas à raconter une affaire célèbre. Il montre aussi comment cette affaire continue d'éclairer les phénomènes de désinformation, d'antisémitisme et de crise de confiance envers les institutions. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, démêler l'affaire judiciaire de l'affaire politique. Le livre insiste d'abord sur la nécessité de distinguer l'erreur initiale, c'est-à-dire la condamnation injuste de Dreyfus, de tout ce qui s'est ensuite construit autour d'elle. Paget ne traite pas l'affaire comme un simple procès raté, il la présente comme un enchaînement de décisions militaires, de calculs institutionnels et de résistances à la vérité. Cette approche permet de comprendre pourquoi l'affaire Dreyfus dépasse le cadre d'un dossier pénal. Une fois la faute commise, le refus de la reconnaître devient central, car il entraîne la dissimulation, la falsification et l'enracinement du mensonge. Le livre montre ainsi que l'enjeu majeur n'est pas seulement de savoir si Dreyfus était coupable ou innocent, mais de voir comment une institution peut préférer sauver son autorité plutôt que de corriger une injustice manifeste. Cette lecture donne au lecteur des repères clairs pour comprendre la durée exceptionnelle de l'affaire et sa portée politique durable. Deuxièmement, reconstituer les rôles réels des protagonistes clés, un apport important de l'ouvrage est de remettre à leur place plusieurs figures souvent réduites à des symboles. Paget examine le rôle de Picard, d'Esterhazy, de Clémenceau, de Peggy et de Zola afin de nuancer les récits simplifiés. Picard apparaît comme un personnage décisif, non pas parce qu'il serait un héros sans contradiction, mais parce qu'il incarne la collision entre l'obéissance militaire et l'exigence de vérité. Esterhazy, de son côté, n'est pas seulement un nom dans le dossier, il représente la zone trouble des intérêts, des faux-semblants et des protections. Clémenceau et Peggy illustrent enfin la manière dont des intellectuels et des responsables politiques ont fait de l'affaire une cause publique. L'intérêt de cette lecture est de montrer que l'histoire ne repose pas sur quelques figures mythiques, mais sur des positions changeantes, des hésitations et des engagements progressifs. Le livre évite ainsi le récit héroïque trop simple et redonne une densité historique aux acteurs. Troisièmement, comprendre la force des documents et des faux, l'un des axes les plus parlants du livre, concerne les pièces emblématiques de l'affaire, le bordereau, le petit bleu, la lettre canaille de D ou le faux Henri. Paget montre que ces documents ne sont pas de simples détails d'archives. Ils sont au cœur du mécanisme de conviction, de manipulation et de tromperie qui structure l'affaire. En analysant ces pièces, l'ouvrage révèle comment une preuve peut être surinterprétée, isolée de son contexte ou carrément fabriquée pour consolider une version officielle. Le lecteur comprend alors que l'affaire Dreyfus est aussi une histoire matérielle des traces, des écrits et des archives. Cette perspective est essentielle, car elle fait apparaître la fragilité des certitudes judiciaires quand les institutions contrôlent les interprétations. Le livre apprend à lire les documents comme des objets historiques, liés à des usages précis, à des stratégies de pouvoir et à des besoins de justification. C'est ce travail sur les sources qui donne à l'essai sa valeur critique. Quatrièmement, montrer l'affaire comme phénomène médiatique et narratif. Paget ne réduit pas l'affaire à ses dimensions judiciaires. Il insiste aussi sur sa transformation en événement médiatique. L'ouvrage explique comment la presse d'opinion a fait de l'affaire un récit sériel, presque romanesque, où les informations circulent, se déforment et se contredisent. Cette mise en récit explique en partie la violence des passions publiques. L'affaire est alors lue, commentée et déformée à travers les codes du feuilleton, du drame et de la polémique, ce qui favorise la confusion entre faits, interprétations et rumeurs. Le livre montre également l'importance du J'accuse de Zola, non comme résumé complet, mais comme intervention décisive dans ce paysage de récits concurrents. Zola réintroduit une exigence de lecture du réel face aux récits manipulés. En analysant l'imaginaire de l'affaire, Paget éclaire aussi ses prolongements dans la littérature et le cinéma. Le lecteur voit ainsi que l'affaire Dreyfus était devenu un modèle de construction médiatique d'un scandale public. En dernier lieu, faire de l'affaire Dreyfus une leçon d'actualité démocratique, le livre prend tout son intérêt dans sa manière de relier le passé aux problèmes contemporains. Paget met en évidence la proximité entre les mécanismes de l'affaire et ceux de la désinformation actuelle, rumeur, complotisme. diffusion d'infox et exploitation des peurs collectives. Sans forcer l'analogie, il montre que l'affaire Dreyfus reste un laboratoire historique pour comprendre comment une société peut se laisser enfermer dans des croyances fausses lorsque des institutions défaillantes, une presse partisane et des passions idéologiques se renforcent mutuellement. L'ouvrage souligne aussi la place de l'antisémitisme, non comme simple contexte, mais comme force active dans la fabrication du soupçon et dans la résistance à la réhabilitation. Cette dimension donne au livre une portée civique. Il ne sert pas seulement à connaître un épisode célèbre, mais à réfléchir aux conditions de la vérité publique. C'est ce lien entre histoire, mémoire et vigilance démocratique qui rend l'essai particulièrement actuel. En conclusion, ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre l'affaire Dreyfus, sans se perdre dans un enchevêtrement de détails ou dans une narration trop générale. Il conviendra particulièrement aux lecteurs intéressés par l'histoire politique française, par l'histoire des médias, par l'antisémitisme et par les mécanismes de l'erreur judiciaire. Son principal bénéfice est de proposer une synthèse structurée, claire et solidement documentée, qui permet d'entrer dans un sujet complexe sans sacrifier la rigueur. Pour un lecteur non spécialiste, c'est une excellente porte d'entrée. Pour un lecteur déjà informé, c'est une mise au point utile qui hiérarchise les enjeux et clarifie les rôles des principaux acteurs. Ce qui distingue l'ouvrage d'autres livres sur Dreyfus, c'est son format de questions-réponses thématiques, très efficace pour démêler les légendes, et son attention aux usages médiatiques de l'affaire. Il ne se contente pas de raconter un drame historique, il montre comment ce drame a fabriqué des récits, des mythes et des réflexes de désinformation dont l'actualité demeure sensible. Si vous souhaitez soutenir Alain Pagès, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.